RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec les neveux de René, Chemin de pensée. Nous continuons à discuter d'un artiste et d'un grand penseur qui est Albert Camus, à travers une de ses œuvres qui est sans doute moins connue que la peste, l'étranger et d'autres œuvres majeures. Il s'agit de La Chute. Alors nous avons beaucoup discuter entre nous de cette œuvre, de ce qu'elle nous évoque, de la forme de l'œuvre. Nous rappelons à nos auditeurs que nous avons consacré 3 émissions à cette œuvre et nous n'en avons pas épuisé encore la substance, donc nous avons encore beaucoup de choses à dire et nous souhaitons y consacrer encore 2 émissions. Voilà. Alors, nous allons donner la parole à Nicolas Lemoine. Vous êtes avec Sylvain Contasso, Anne Bonneau et moi-même, Nazim Fattès. Donc Nicolas, le maître des résumés, va nous dire en quoi a consisté l'épisode précédent.
Alors, la dernière fois, nous étions posé la question de savoir ce qui n'allait pas chez le personnage du narrateur, chez Camence, alors que, au moins dans le début de son récit, il apparaît comme bien sous tout rapport. Il est généreux, honnête, droit, respectueux des lois, faisant plus que ce que son devoir lui commande de faire. Sa seule récompense paraît être une bonne estime de soi, récompense somme toute modeste. Alors, mais le problème c'est que la conscience humaine est différentielle. Il s'agit de dominer les autres. Les autres voulant faire pareil, le salut vire à la foire d'empoigne, et nous avons lu à ce sujet une pensée de Pascal. Nous avions aussi évoqué sa superficialité. Il ne s'attache à rien, ni en amour ni en amitié. Cela rejoint une conception commune de la liberté comme étant l'absence d'entrave, de contrainte, une absence de modèle aussi, illusion d'être son propre modèle et d'être aussi un modèle pour les autres. Nous avions présenté enfin le mythe de la création du soleil et de la lune chez les Aztèques, où le futur dieu lune, rêvant de devenir soleil, se propose lui-même pour sauter dans le feu. Mais il n'y arrive pas. Par contre, le futur dieu soleil, lui désigné, obéit et y arrive. Et voyant cela, le futur dieu lune saute à son tour. L'anthropologue René Girard y voit une illustration du mimétisme. Se croyant au-dessus de tout modèle, le futur dieu lune pense dominer les autres en réalisant un geste que personne n'a fait avant lui. Mais au moment crucial, il échoue. Il renonce à se jeter dans les flammes, comme Clémence ne parvient pas à se jeter à l'eau pour sauver la désespérée qui a sauté du pont dans la Seine. Le futur dieu soleil, lui, agit sous une autorité. Il arrive à se jeter dans le feu. Devant cet exemple, le futur dieu lune saute à son tour et devient un astre moins brillant que le soleil car il a hésité. Girard ajoute que ce qui détruit la liberté, ce n'est pas d'avoir un modèle, mais c'est d'imiter inconsciemment et c'est ce que le plus souvent, nous refusons d'admettre que nous imitons des modèles.
Donc la dernière émission était centrée sur une interprétation que tu nous as donnée, Nicolas, qui est l'interprétation à partir de la pensée de René Girard, de cette œuvre. Et tout d'abord, je voudrais poser la question à Anne et à Sylvain sur ce qu'ils pensent de la forme du récit. Donc toi, tu as donné cette interprétation, Nicolas, à propos, donc tu as vu dans ce récit une illustration de la pensée qui est développée par René Girard.
Enfin, disons que j'ai appliqué la grille de lecture proposée par René Girard pour analyser le récit de La Chute.
Et pour d'autres qui ne seraient moins au fait de la pensée de René Girard, Anne et Sylvain, comment cette forme, puisque la forme de La Chute est assez curieuse, on rappelle que c'est un homme qui va faire un quasi-monologue. Alors c'est un dialogue dans la mesure où cet homme parle à un compatriote, quelqu'un de mystérieux dont on ne sait très peu de choses. Ce compatriote répond parfois, ou on a l'impression qu'il répond, un peu comme au théâtre quand il y a un monologue et qu'il y a quelqu'un qui est au bout du fil et qui dit « Ah oui, tu pourras pas venir samedi ». Donc il semble donner des répliques, mais on les entend pas très bien. Alors, j'ai le sentiment que toi, Sylvain, tu étais plutôt dubitatif quant à cette forme-là pour aborder la pensée d'Albert Camus. Et au contraire, Anne, toi, tu y as vu beaucoup de choses et tu disais « on rit dans ce roman ».
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce roman, c'est que c'est un homme qui parle de lui. Et donc, qui revoit toute sa vie, mais qui revoit toute sa vie à partir d'un événement. Un événement qui lui a fait trouver quelque part un petit peu la vérité sur lui-même. Et donc, il repart de lui, il revoit sa vie, lui qui était très, très, très fier de lui, qui pensait qu'il avait tout réussi. Et à partir de cet événement, il revisite complètement toute sa vie, tous ses gestes. Et puis, ça donne énorme. Je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup de fort au récit. En même temps, c'est peut-être aussi pour nous une invitation aussi à réfléchir sur nous-mêmes.
À l'introspection, oui. Qui est le mouvement même de la philosophie, finalement. Oui. Et toi, Sylvain, par contre, tu disais que ce n'était pas ce qui te plaisait le plus pour aborder une pensée d'un auteur capital comme Camus.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la forme du roman ici, surtout en plus là, dans un monologue comme ça qui est très long, du coup, je trouve que c'est quand même assez compliqué finalement de ressortir les éléments philosophiques. On a plus de mal à identifier les choses que si on avait un texte peut-être plus avec moins de mise en scène, si on peut dire, et qui soit plus directement, qui aborde plus directement les sujets philosophiques, comme justement on pense par exemple à L'homme révolté ou des textes comme ça.
Oui.
Où là, on a directement un discours, une pensée expliquée sur, sur la révolte en l'occurrence, mais ça pourrait être sur autre chose.
Oui. Alors pour nos auditeurs, on pourrait rappeler que L'homme révolté, c'est pas un gros pavé, mais c'est un texte qui est nettement plus conséquent en termes de pages. Donc l'édition que j'ai là sous les yeux, parue dans la collection Espoir, dirigée par Albert Camus, elle fait 378 pages. Hein, donc là, si on regarde la table des matières, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Précisément, est-ce qu'on ne peut pas se dire que, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas justement s'il faut lire d'abord L'homme révolté ou d'abord la peste ou d'abord L'étranger ou d'abord La chute, est-ce que finalement l'œuvre littéraire n'est pas un bon moyen d'aborder des thèmes philosophiques comme ceux de la liberté, ceux de la mort, ceux de l'homme sans Dieu, et ainsi de suite?
Ça peut l'être, bien sûr, mais on va dire que ce n'est pas forcément le chemin le plus direct et le plus facile, en fait. C'est-à-dire que quelque part, je pense qu'il faut déjà avoir un certain recul sur la philosophie pour peut-être y retrouver. D'une certaine façon son compte, quoi.
Retrouver les idées philosophiques mêlées à la vie, quoi.
Oui. Et toi, Nicolas, par contre, tu disais tout à l'heure, quand on préparait cette émission, aussi une certaine forme, par contre, de doute quant à la forme philosophique, disons, d'un traité. Quand un auteur fait un traité, tu disais, j'aimerais bien savoir quelles sont les conséquences concrètes dans la vie que mène une pensée, c'est ça?
C'est-à-dire, effectivement, que ce soit une doctrine, que ce soit un système philosophique, une manière de voir le monde, comment ça oriente la vie de quelqu'un et quelles sont les conséquences pratiques, concrètes de ces idées, de ces doctrines, de ces façons de voir le monde?
Moi, j'aurais envie de dire, est-ce que finalement la philosophie ne s'occupe pas justement des conséquences concrètes?
Pas forcément.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté gratuit dans la philosophie qui fait naître en nous quelque chose, comme disait Anne, qui nous fait voir notre propre vie sous un angle, et finalement qui serait propice à ce qu'on soit, j'ai pas envie de dire en paix avec soi-même, parce que ça fait un peu New Age, etc. Mais se retrouver soi-même, quoi. Trouver sa propre originalité, trouver sa voie.
Bah oui, parce que la philosophie, c'est quand même un questionnement, une remise en question permanente. Donc, c'est pas forcément pour établir un système de fonctionnement.
En tout cas,
c'est jamais absolu et c'est jamais définitif, quoi. Voilà.
Alors, on peut voir la question de la liberté y retourner. Mm-hmm. Nicolas, je pense que tu n'avais pas dit tout ce que tu avais à dire à propos de la question, puisque on rappelle que ce récit, c'est un monologue qui est fait par un personnage dont on sait peu de choses, sinon qu'il est avocat, qui s'appelle Jean-Baptiste Clémence.
Clémence, merci.
Jean-Baptiste Clémence, c'est pas Clémence. Et il semble revendiquer le maximum de liberté pour lui. C'est pas ni Dieu ni maître, mais ça n'en est pas loin.
C'est ça, c'est qu'il revendique le fait, à l'époque de sa gloire, de n'avoir aucune attache, ni avec les femmes qu'il collectionne en quelque sorte.
Donc là, on avait parlé d'une façon d'illustrer le divertissement pascalien, parce que on avait dit que cette débauche, elle apparaît elle-même comme une fuite, hein, comme oui, quelque chose.
Oui et non. Alors non. Après, on peut aussi continuer la même grille de lecture que celle que j'avais proposée la dernière fois. À partir du moment où Clémence a l'hubris de vouloir dominer sur tout le monde, il est en concurrence avec tout le monde, surtout, y compris sur les femmes. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de sauter d'une femme à l'autre ? C'est peut-être un divertissement, mais c'est aussi peut-être parce qu'il est en train d'imiter le désir du premier qui passe. Et c'est pour ça que ça n'a pas de fin.
Donc,
oui. Il pourrait très bien se divertir avec une seule femme, ou avec quelques femmes. Mais là, c'est don juantesque. Et ça n'a pas de fin, ça n'a pas de mesure.
Voilà. Est-ce que c'est aussi le pouvoir ? Est-ce que c'est vraiment le mimétisme ? Est-ce que c'est pas aussi le goût du pouvoir,
mais c'est
tout
ça.
Simplement ?
Mais oui, il imite le désir de l'autre parce qu'il veut justement bénéficier du surcroît d'être qu'il accorde inconsciemment à l'autre qui possède ce qu'il désire.
Mais c'est bel et bien aussi donc une question de pouvoir.
Ah, bien sûr.
Et d'ailleurs, on retombe aussi sur Socrate là-dessus, puisqu'il dit « Mais je n'étais jamais rassasié, finalement, je n'étais pas vraiment heureux.
Ça,
je croyais que j'étais heureux, mais je n'étais pas
rassasié. » L'accumulation sans limite.
Ouais. Oui, donc là, c'est tout à fait ce que Socrate nous disait sur les hommes puissants.
Alors, Anne, pour aller faire un pas plus loin dans ce sens, il y a dans l'homme révolté, dans la chute, pardon, un moment où il parle du jugement. Alors, donc, il y a le côté imitation qu'on peut prendre, hein, on ne va pas le discréditer, mais il y a la question du jugement. Moi, je me dis, est-ce qu'être fort, avoir le pouvoir, ce n'est pas aussi échapper au jugement ? Parce qu'on sent qu'il y a cette tension dans toute l'œuvre d'un homme qui cherche à échapper au jugement. Et c'est pour ça qu'il raconte l'histoire du juge pénitent. Il dit, attention, le jugement, ça te revient toujours à la figure. Et à un moment, il dit même qu'être riche, la première chose, c'est qu'on échappe au jugement immédiat.
Oui, mais il le dit même bien avant, au tout début du texte, il en parle. Il dit, moi, j'étais avocat, et finalement, j'étais même au-dessus des juges. Donc c'est très très important pour lui d'être au-dessus de ce jugement.
Oui, alors il y a le jugement des juges, mais il y a le jugement de ses pairs.
Oui, oui, voilà,
de ses concitoyens, oui, tout à fait. Alors, on peut peut-être lire à nos auditeurs un petit passage qui nous a paru illustrer cette tension qui existe dans la vie, dans l'introspection de Clémence quand il revoit sa vie. À un moment donné, il parle d'un épisode qui a l'air de rien, un épisode en somme innocence, mais qui va lui ramener à la mémoire et qui va le faire...
commencer à le faire douter.
Voilà, à le faire douter, à le faire dégringoler presque.
À lui faire entendre des rires, comme il dit.
Et d'ailleurs, justement, avant le passage, il y a aussi quelque chose d'amusant, c'est qu'il y a toujours le parallèle avec la santé. Hein. Donc, il se trouve très bien, magnifique, très fort, bon, extraordinaire, beau, tout. Enfin, il est vraiment parfait. Et puis, tout d'un coup, il y a comme des petites failles. Et tout d'un coup, voilà, on a l'impression qu'il a des alertes.
Hein. Mmh. Alors, voilà. Oui, ça, c'est capital. On va aussi, avant de lire le passage, je voudrais prendre la balle au bon et dire la santé, par exemple. La santé, bon, c'est une affaire qui concerne chacun d'entre nous, hein, mais la santé, c'est aussi un thème philosophique.
Oui,
c'est un thème qui traverse toute la philosophie. Ouais. Il faut pas oublier que les philosophes se sont présentés comme des médecins de l'âme. Hein,
Descartes voulait aussi s'en prendre à notre santé, mais peut-être de manière
Mais exactement. Ouais, et Descartes dit que la meilleure chose qu'on puisse attendre de la philosophie, c'est l'amélioration de la santé.
Ouais.
Mais il dit à santé parce que le corps qui va bien nous permet aussi de bien penser.
Mmh. Voilà. Oui, il entend santé au sens général. C'est pas que le corps, en fait.
Voilà. C'est aussi le corps, mais c'est le corps qui va faire du bien.
Et du reste, plus il va s'apercevoir qu'il n'est pas si bien, plus aussi son corps va aller mal.
Voilà.
C'est aussi ça qui est amusant.
Voilà. Et donc, par rapport à ça, tu vois, Sylvain, on peut traiter d'un thème philosophique comme celui de la santé en filigrane dans un texte. Mais toi, ce que tu dis, c'est que tu préfères ceux qui traitent plus directement de cette question-là.
Bah, disons que l'accès, en tout cas, oui, pour quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie, effectivement, on va dire que l'accès est plus simple et plus direct dans un document même. Il peut y avoir une petite mise en forme. D'ailleurs, dans Platon, il y en a, mais elle est très réduite et elle laisse la place vraiment au fond des choses.
Oui, mais
là, c'est évidemment beaucoup plus indirect. Alors, oui. c'est pas forcément moins bien, c'est simplement que c'est plus difficile d'accès.
Oui, mais justement, la difficulté d'accès, là, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que y a les philosophes actuels sont quand même très, très difficiles. Actuels, ou disons plus récents pour nous que Socrate, sont quand même très difficiles d'accès. Et moi, j'essaye de lire Heidegger, je vous assure, c'est pas facile. Alors, quand je lis Dostoïevski, au moins, j'ai des choses qui me parlent tout de suite. Et Dostoïevski a parlé également aux philosophes. Les philosophes se sont inspirés de Dostoïevski. Donc, je pense que les écrivains sont également importants pour nous apporter de la philosophie.
Donc, ça fait différentes façons de rentrer dans une œuvre. Avant de lire le passage, Anne, je propose une petite pause musicale et puis on va lire le passage.
C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté, face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie, vous ne voyez non point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le-toi, bien souvent, c'est trop facile, c'est trop facile de faire semblant.
C'était Grand Jacques de Jacques Brel, une de ses toutes premières chansons.
La radio des régions, RCF.
Alors, nous allons passer à la lecture de cet extrait de La Chute de Camus. La lecture d'un extrait qui nous a paru emblématique, qui bien illustrait cette tension qui existe dans le récit.
Peu à peu, la mémoire m'est cependant revenue. Ou plutôt, je suis revenue à elle. Et j'y ai trouvé le souvenir qui m'attendait. Avant de vous en parler, permettez-moi, mon cher compatriote, de vous donner quelques exemples qui vous serviront, j'en suis sûre, de ce que j'ai découvert au cours de mon exploration. Un jour où, conduisant ma voiture, je tardais une seconde à démarrer au feu vert, pendant que nos patients concitoyens déchaînaient sans délai leurs avertisseurs dans mon dos, je me suis souvenu soudain d'une autre aventure survenue dans les mêmes circonstances. Une motocyclette, conduite par un petit homme sec, portant lorgnon et pantalon de golf, m'avait doublé et s'était installée devant moi, au feu rouge. En stoppant, le petit homme avait calé son moteur et s'évertuait en vain à lui redonner souffle. Au feu vert, je lui demandais, avec mon habituelle politesse, de ranger sa motocyclette pour que je puisse passer. Le petit homme s'énervait encore sur son moteur poussif. Il me répondit donc, selon les règles de la courtoisie parisienne, d'aller me rhabiller. J'insistais, toujours poli, mais avec une légère nuance d'impatience dans la voix. On me fit savoir aussitôt que, de toute manière, on m'amenait à pied et à cheval. Pendant ce temps, quelques avertisseurs commençaient, derrière moi, de se faire entendre. Avec plus de fermeté, je priais mon interlocuteur d'être poli et de considérer qu'il entravait la circulation. L'irascible personnage, exaspéré sans doute par la mauvaise volonté devenue évidente de son moteur, m'informa que si je désirais ce qu'il appelait une dérouillée, il me l'offrirait de grand cœur. Donc, s'ensuit ensuite une discussion avec... Oui, tu veux
voilà,
résumer.
Ensuite, donc, on sent que ça se passe mal.
Le ton monte.
Le ton monte. Et puis, il se prend un coup de la part de cette personne. Hein.
D'un autre. Mais à peine était-je sur la chaussée que de la foule qui commençait à s'assembler, un homme sortit, se précipita sur moi, vint m'assurer que j'étais le dernier des derniers et qu'il ne permettrait pas de frapper un homme qui avait une motocyclette entre les jambes et s'en trouvait par conséquent désavantagé. Je fis face à ce mousquetaire et en vérité ne le vis même pas. À peine en effet avais-je la tête tournée que presque en même temps j'entendis la motocyclette pétarader de nouveau et je reçus un coup violent sur l'oreille. Avant que j'aie eu le temps d'enregistrer ce qui s'était passé, la motocyclette s'éloigna. Engourdi, je marchais machinalement vers D'Artagnan quand, au même moment, un concert exaspéré d'avertisseurs s'éleva de la file, devenu considérable des véhicules. Le feu vert revenait, et alors, encore un peu égaré, au lieu de secouer l'imbécile qui m'avait interpellé, je retournai docilement vers ma voiture et je démarrai, pendant qu'à mon passage, l'imbécile me saluait d'un « pauvre type » dont je me souviens encore.
Alors, en quoi ça peut nous parler de nous, de l'homme moderne, ou de cette difficulté qu'il y a à faire de l'introspection? Et pourquoi c'est un épisode un peu qui est central dans le récit?
Central déjà parce que c'est sa première alerte, hein, enfin, c'est la première qu'il nous donne. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est mis très très haut, il s'est mis sur un piédestal, et tout d'un coup, il se trouve devant une situation qui lui échappe totalement. Et il se rend compte que ben il a pas le courage, il a pas le courage de répondre.
Il a pas l'autorité.
Il est plus
dans son contexte naturel où il domine.
Mais même au-delà de l'autorité, il se rend compte que tout le monde, tous les gens ne l'aiment pas forcément. Il est pas aimé de tout le monde.
Ni
et ça, c'est quelque chose dont il prend conscience finalement et qui peut être assez dur à encaisser quoi.
Et pourquoi c'est dur à encaisser? Parce qu'il n'arrête pas finalement du jour au lendemain de se voir dans le camp des bons. Finalement, tu vois.
Et... Oui, puis il est quelqu'un de sympathique que tout le monde aime, quoi.
Ouais, exactement. Mais je me demande si nous ne sommes pas tous un peu des clamants, tu vois. On n'arrête pas finalement de se prendre pour les bons. Et bon, alors il y a plusieurs choses. Hein. Moi, j'adore quand il dit la courtoisie parisienne, enfin toute cette ironie qu'on trouve là-dedans. Est-ce que ce qu'il veut dire là-dedans, c'est pas arrêtons de nous placer toujours du côté des bons. Finalement, là, il n'y a plus de marqueur social. Et du coup, ce qu'on s'était bâti tombe. Quoi. Et ça, on le vit tous.
C'est-à-dire il prétendait agir au nom de tous ceux qui étaient derrière et qui étaient gênés par l'homme à moto. Et il prétend agir pour le bien de tous. Et en allant donc engueuler ce motard qui bouche la circulation. Et puis d'une part, il se fait contester, et plus encore, il se fait contester par quelqu'un d'autre qui dit non, c'est honteux d'agir comme ça et de donner un coup à quelqu'un qui ne peut pas se défendre.
Alors ça va nous ramener à la discussion que nous avons eue lors des épisodes précédents, c'est l'histoire de faire le bien.
C'est ça.
Pourquoi on fait le bien? Et est-ce qu'on peut vraiment un jour se sentir innocent en faisant le bien, quoi?
Et il tombe devant quelqu'un qui est plus Clémence que Clémence.
Ah, oui.
Et qui lui dit, mais vous êtes un affreux. Moi, je défends le bien. Et parce que vous n'avez pas le droit de taper quelqu'un qui est défavorisé.
Qui a une motocyclette, oui.
C'est ça, entre les jambes.
Oui, Anne, tu voulais dire quelque chose à ajouter? Non.
Par rapport à cette innocence, déjà, il faudrait vraiment arriver à circonscrire ce qu'on entend par l'innocence au final. Parce que, encore une fois, ce mot revient souvent, mais bon, qu'est-ce qu'il entend précisément? C'est toujours un
Est-ce que la chute, c'est pas une méditation sur l'innocence?
La chute, c'est la perte de l'innocence.
C'est la perte de l'innocence. Tu voulais faire référence à la Genèse.
Le récit de la Genèse, hein, au moment où Adam et Ève commettent la faute en mangeant le fruit défendu, hein, il est écrit, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus.
Oui.
C'est le récit de la perte de l'innocence.
Voilà.
Et c'est ce récit-là que nous fait Camus.
Et cet épisode de la moto, c'est ses yeux s'ouvrir et il vit qu'il était nu, peut-être.
Alors, ça a été très progressif chez Clémence.
Oui.
Hein.
Ça s'est pas fait d'un coup.
Ça s'est pas fait d'un
mais
coup.
Mais c'est un des épisodes qui va montrer qu'il est nu, quoi.
C'est ça.
Il va voir sa nudité.
C'est ça.
Oui.
Et c'est-à-dire qu'être innocent, c'est effectivement se croire du côté du bien. Vas-y.
Encore une fois, la nudité, en quoi la nudité n'est pas innocente?
Eh bien, justement, elle est innocente jusqu'au moment où on ouvre les yeux. C'est un moment où on ressent une
culpabilité. Un moment où on porte un jugement sur ça.
Oui.
Mais donc
où on ressent le jugement des autres.
Et toi, Anne, tu étais...
On prend conscience qu'on est jugé soi-même.
Tu pensais plutôt à la conscience de Victor Hugo, c'est à ça que
oui,
ça
te rappelait. Oui, mais alors c'est encore autre chose, hein, parce qu'on se demande qu'est-ce qui tourmente finalement tellement Clamence, parce que donc après toutes ces alertes, il va être très très tourmenté, et donc il va complètement changer sa vie. Hein, ça, je crois qu'on en a pas encore parlé, il va abandonner son métier, etc. Il va partir à Amsterdam, et on peut se demander qu'est-ce qui tourmente Clamence. Et moi, ce qui m'a toujours un peu troublée, c'est que j'avais pas l'impression que ce qui le tourmentait tellement, c'était la femme qui était. C'était la femme qu'il n'avait pas sauvée. J'avais l'impression que ce qui le tourmentait, c'était l'image de soi qui avait été écornée.
Et, voilà. Et c'est aussi ça qu'on voit dans cet extrait. C'est l'image de soi
qui a été écornée.
Donc il y a presque quelque chose qui est de l'ordre de la psychanalyse. C'est-à-dire on est face à l'ego et l'ego finit par tomber. Quoi. Ouais. Voilà.
Et il découvre le ressentiment. C'est quelque chose dont on pourra parler après une fois.
Et par rapport à ce thème du ressentiment, on voit tout de suite le lien avec la pensée de Nietzsche. Et le reflet que va nous donner ce ressentiment de notre époque, finalement. Cette époque, c'est peut-être l'époque du nihilisme. Et effectivement, ça fera l'affaire d'une émission prochaine pour voir comment un récit aussi innocent, enfin aussi anodin que celui de la moto ou d'autres, où apparaît ce thème-là du ressentiment, le désir de revanche, le désir de montrer que bon, on s'est pris une dérouillée, mais quand même on est quelqu'un de bon au-dessus des autres, comment ça peut amener à comprendre notre temps. Voilà. Merci à toutes et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine pour le 5e et dernier épisode qui sera consacré à la chute d'Albert Camus.